Alors on va tout de suite à notre prochain invité. Vous savez que les sans-abri, c'est un dossier qui, moi, personnellement, me tient énormément à cœur. Et dès qu'il y a quelque chose, je veux donner de la visibilité. Parce que les gens qui sont dans la rue, ça peut arriver à n'importe qui. Et il faut vraiment en parler. Émilie Fortier est directrice des services du campus Saint-Laurent de la mission Oldbury, dont la vocation est d'apporter des solutions concrètes et durables pour mettre fin à l'itinérance en fournissant des services d'urgence et d'accompagnement. Détentrice d'un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale de l'Université de Sherbrooke, elle possède également un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de HEC Montréal et a complété une propédeutique de deuxième cycle en travail social. Émilie Fortier compte plus de 20 ans d'expérience dans le milieu communautaire et en coopération internationale. Elle a consacré la majorité de ces années à œuvrer auprès des populations marginalisées au Québec et au Burkina Faso. Bonjour Madame Fortier.
Oui, bonjour.
Alors, il manque des lits en ce moment. Racontez-nous ce qui se passe, vraiment la situation. C'est vraiment un cri d'alarme. Qu'est-ce qui se passe à la mission en ce moment?
Oui, donc depuis le début de la pandémie, évidemment, là, qu'on est sur le pied d'alerte. Une des conséquences de la pandémie qui est mondiale, pas juste à Montréal, et qu'un peu toutes les ressources en itinérance à Montréal a dû revoir sa façon de faire et aussi l'organisation de nos locaux. Donc, un peu tout le monde, nous avons dû enlever des lits dans nos différents dortoirs et tout pour pouvoir accueillir les gens de façon plus sécuritaire. Pour compenser, on a développé des nouveaux services avec le support de d'autres ressources communautaires, le réseau de la santé et la ville de Montréal. Malheureusement, le nombre de places qu'on a développées n'est pas suffisant. Donc, on voit à Montréal depuis le début de l'été, là, minimalement, on n'a pas des chiffres clairs de recherche, quoi que ce soit, mais on voit visiblement une augmentation de l'itinérance visible. Mmh. Et on peut voir tous les jours, là, on refuse des gens dans l'ensemble de nos sites, là, la mission Oldbury. Donc, c'est un face à ça, on s'est concerté avec d'autres partenaires pour proposer certaines solutions. Et on est toujours en attente de réponses favorables. Pour l'instant, on n'a rien eu de très concret. Non.
Alors, pendant la COVID, j'ai su que, bon, même pour les femmes, il y avait des possibilités, plus de possibilités d'avoir des lits avant de penser au manquement de lits en général. Je veux savoir, au niveau des femmes, est-ce que c'est rétabli, le manque de lits et tout ça?
Ce qu'on nous indique, c'est qu'au niveau des femmes, oui, c'est rétabli. Mais... Donc, comme ça veut dire, avant la pandémie, il y avait un manque assez grand de places pour femmes en situation d'itinérance. Mm-hmm. Et là, avec les ajouts des nouveaux services, entre autres à l'hôpital Hôtel-Dieu, là, qu'on gère, dont on gère les services psychosociaux, semble que il y a quand même un certain équilibre. Mais c'est un équilibre qui est très, très précaire quand on pense que là, on est juste au mois d'octobre. Le manque à gagner présentement est très, très criant auprès des hommes, mais aussi auprès des services de servant les couples. Okay. Donc, il y a très, très peu de place pour les couples à Montréal. Donc, le peu de place qu'on a, c'est présentement à l'Hôtel-Dieu. Puis, c'est toujours complet. Là.
Alors, j'ai le chiffre de 300 lits. Est-ce qu'il est toujours bien au moment où on se parle?
Oui, c'est une hypothèse. On s'entend, là, comme je mentionnais, on a très peu de données scientifiques présentement parce que la situation est changeante et elle a changé assez rapidement. Mais c'est un minimum de 300 places qui manquent toujours dans le Grand Montréal, dont 150 places pour le centre-ville.
Oui, parce que là, c'est de plus en plus difficile. On sait très bien que j'en ai parlé, j'ai fait une émission là-dessus il y a deux semaines. En plus, s'ajoute l'histoire du passeport vaccinal où là, c'est absolument épouvantable pour les sans-abri qui, normalement, certains allaient se réfugier soit dans les centres d'achat ou dans d'autres endroits. Et là, il y a quelque chose de plus qui leur est imposé et c'est difficile de se trouver. En plus, il manque des lits, donc c'est très difficile de trouver une place pour dormir.
C'est extrêmement difficile. Et si on avait l'habitude, là, des fois que tout l'ensemble des places disponibles là, peut-être étaient prises en fin de soirée, maintenant à 16-17 heures, là, ça devient compliqué de trouver une place. Il y a certaines places qui vont être ajoutées en cours d'hiver. Là, de façon traditionnelle à Montréal, on augmente un peu la capacité au 1er décembre, mais ça sera visiblement pas suffisant. Là, ce qu'on connaît pour l'instant au centre-ville, c'est une trentaine de places. On va rajouter entre autres à l'Hôtel Dieu dans nos services, mais ça sera visiblement pas suffisant. Puis on est quand même sous un fond de il faut anticiper d'autres éclosions. On a été très chanceux en itinérance. Il y a eu très, très peu d'éclosions dans les grands services. Toujours des éclosions qui se sont contrôlées avec le temps. Mais là, on voit plus la fraîcheur arrive, plus le risque est grand, puisque les gens sont plus à l'intérieur, donc ont plus de contacts. Donc là, on mène une bataille là, de deux fronts. Là. Avoir davantage de place, mais aussi s'assurer que notre population peut être reçue en sécurité puis a accès à l'ensemble des services.
Mm-hmm. Est-ce que comment ça se passe justement au niveau du passeport vaccinal et puis au niveau de la vaccination? Parce que c'est important de le dire, là, il y a des très bons services, puis il y a des appuis aussi à ces services-là, et vous êtes responsable. Comment ça se passe au niveau des sans-abri et passeport vaccinal et vaccin?
Oui, vous faites bien de le mentionner. Effectivement, on a une très belle collaboration en fait avec la direction de la santé publique qui a rendu très rapidement les vaccins disponibles pour notre population puis nos travailleurs. Ça varie, le taux de vaccination varie d'un endroit à l'autre et de certaines populations à l'autre. Il faut comprendre qu'il y a des groupes qui ont été très échaudés par rapport à la vaccination dans le passé là, au niveau culturel. Ou bien on a des gens qui ont des problèmes, des enjeux de méfiance, de santé mentale, tout ça, de consommation, qui fait qu'ils ne priorisent pas nécessairement la vaccination. Mm-hmm. Par contre, on a un appui je dirais hors pair ou un très bon appui du réseau de la santé là, qui tente par tous les moyens là, de nous appuyer dans la sensibilisation auprès de nos personnes. Il y a un taux de vaccination qui est difficile à identifier parce que les gens, faut comprendre, bougent d'une ressource à l'autre, mais on parle de 60 à 85 % là, de taux de vaccination selon la population qu'on a sondée. Maintenant, les efforts restent, et c'est la même chose pour les dépistages, donc on a un appui régulier là, pour faire des dépistages, que ce soit préventif ou lors des moments d'éclosion. Et le plus gros manque à gagner, c'est encore une fois pour la population un petit peu plus désaffiliée, donc qui fréquente nos ressources davantage de soir et de nuit. Il y a très peu d'offres de services qui leur sont adaptées. Mmh. Et donc c'est très difficile, par exemple, pour eux d'avoir accès à un dépistage sur place ou à une vaccination sur place, comme pour ceux qui fréquentent nos services le jour. Mmh. Donc, on doit user un peu de créativité pour réussir à les garder sur place, ou bien on tente davantage là, de militer, là, entre autres, pour l'accès à du dépistage rapide là, en milieu d'hébergement d'urgence.
Comment ça se passe au niveau du passeport, le papier, comment vous faites pour que...
Donc on a fait des cliniques d'accès, si on veut. Là. Donc, pour chaque personne là, qui a été vaccinée, qui a eu ses deux doses, donc on lui imprime son passeport, soit qu'on télécharge sur son cellulaire l'application, ou bien on lui imprime son passeport, puis on le plastifie. Là. Donc, on a des usagers qui se promènent un petit peu avec comme une carte d'identité. Là. Puis, je dirais même que certains voient ça comme une fierté là, au niveau de leur statut vaccinal. Là. Donc, ils sont bien contents d'avoir eu accès. Et, on n'a pas entendu de très, très grandes histoires de rejet, par exemple, de certains services ou de manque d'accès. Par contre, on sait que la population qui est dans la rue, qui vont se voir exclure là, un peu de certains lieux publics, comme vous l'avez mentionné, bien, ils sont un peu victimes dans tout ça, puis ils vont pas nécessairement dénoncer les situations parce que c'est quand même il faut s'identifier comme personne en situation d'itinérance, il faut lutter. Donc, eux, ont souvent d'autres enjeux là, au niveau de la survie là, à mettre de l'avant. On sait qu'il y a des histoires, on sait qu'il y a des restaurateurs là, qui se sont permis de refuser l'accès à certains lieux publics, mais ça demeure plutôt anecdotique pour l'instant. Là.
Bon, alors on revient à notre sujet principal, les 300 lits. Là, je vais être moins tendre au niveau du gouvernement. Vous avez fait des demandes et puis vos demandes sont restées vaines. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez urgemment besoin de loger ces gens-là qui dorment dans la rue en ce moment. L'hiver va arriver et il y a toujours un manque. On a donné un chiffre approximatif, mais de 300 lits là que vous avez besoin. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que le gouvernement a finalement répondu à vos demandes?
On est encore toujours en attente de réponse plus formelle, mais déjà l'absence de réponse indique que ce n'est pas nécessairement un oui, donc qu'il n'y a pas nécessairement... On sait que nos idées sont entendues, mm-hmm. On sait que il y a une certaine ouverture à en discuter, mais on n'a eu aucune proposition très concrète. Il faut comprendre qu'en plus des lits manquants, ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir un plan coordonné. Donc, on s'est assis avec des partenaires, mm-hmm. Et on a proposé là, un plan structuré sur 5 ans, puisque c'est aussi l'idée, c'est aussi de coordonner les services, mais de les rendre plus stables. Donc, plutôt que de travailler par saison, de travailler à l'année, de nous donner les moyens d'arriver sur 5 ans à quelque chose de structuré et de fonctionnel. Parce que pour l'instant, on fonctionne dans les derniers hivers, c'est toujours de décembre à mars. Donc, ce que ça veut dire, c'est remettre des gens à la rue au mois de mars, renvoyer des employés aussi qu'on vient de former. Et donc, on nous demande à chaque novembre de faire un exercice incroyable pour remettre en place certains services. Et on l'a vécu de façon répétée durant la COVID. On a été au rendez-vous à la Mission Brewery. On a ouvert 2-3 hôtels et 3 sites d'hébergement d'urgence, est-ce que ça dans des arénas ou des anciens hôpitaux. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Là, à coup de 2 mois, 3 mois, on ne sait pas quand est-ce que ça va fermer. Nos employés quittent avant la fin parce qu'ils ont besoin d'un emploi stable. On forme des équipes. Les usagers, surtout, sont déplacés d'un endroit à l'autre. Donc, il n'y a pas moyen de stabiliser la situation de la personne quand on doit reprendre des suivis jour après jour. Donc, on demande... un minimum de 300 places, ouvert 24/7. Donc, c'est un ajout dans nos demandes. On ne souhaite plus mettre en place de services uniquement de nuit. Il n'y a personne qui mérite d'être gardé dans cette instabilité-là, de devoir quitter tous les matins, revenir le soir, lutter un petit peu pour sa survie. Et nous, ça ne nous permet pas d'offrir des services adaptés à ceux qui ont des enjeux de santé mentale, par exemple, ou des enjeux en dépendance. Donc, on a besoin de pouvoir garder les gens, les stabiliser, les sécuriser, leur dire, regarde, ton toit est assuré, ta douche, ton repas, tes vêtements. Mm-hmm. Maintenant, laisse-nous t'aider à te sortir de cet épisode-là qui est plus ou moins long là, en fonction des histoires puis en fonction des services que la personne a besoin. Donc, 17 jours sur 7 pendant 5 ans. Puis nous, évidemment, on vise toujours... La sortie de l'itinérance, donc souvent ça passe par des hébergements, du logement permanent, donc que ce soit du logement au niveau privé, donc de façon autonome quand on a rétabli la situation financière, ou bien des logements plus adaptés avec de l'accompagnement.
Alors, il y a des élections municipales le 7 novembre. Bon, vous avez frappé au niveau du gouvernement, j'imagine, provincial. Maintenant, c'est un enjeu extrêmement important. Évidemment, pour eux, c'est pas assez glamour, les sans-abri. Mais est-ce que vous avez été écouté et est-ce qu'il y a des gens dans les candidats qui sont présents qui proposent quelque chose? Parce que là, c'est là que ça se passe. Il faut agir maintenant. Et est-ce que vous avez fait part de votre plan au niveau des sans-abri et particulièrement des lits manquants?
Donc, oui, on a certains candidats qui ont démontré une ouverture. D'ailleurs, on tient éventuellement, on les a invités, différents candidats au niveau des élections municipales, à venir participer à un débat qu'on organise. Certains ont manifesté une ouverture, un dialogue. On a eu très, très peu d'idées concrètes. En tout cas, elles se sont pas rendues à moi s'il y en a eu. J'ai vu certaines sorties médiatiques au niveau du logement social, mais encore là, peu de ces logements-là s'adressent à une population plus vulnérable que sont les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Donc, on y va de grandes annonces, mais on ne priorise pas nécessairement les personnes qui sont dans nos services. Puis souvent, on se contente de dire, ben, écoutez, on va aider à mettre en place un service d'hébergement d'urgence, comme un refuge, par exemple, mais c'est pas toujours la solution qui est à mettre de l'avant. Donc, ça doit venir de pair avec des solutions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus permanentes, comme le logement. Parce qu'on veut pas avoir, on n'a aucun intérêt comme société d'avoir des méga-centres, comme on a vu à la place du Puy, ou comme on nous demande ça souvent de mettre en place des méga-centres pour juste accueillir les gens pour la nuit. Ce qu'on veut, c'est avancer de façon concrète. Et ça, bien que les différents candidats nous entendent, ils ont rapidement tendance à mettre l'itinérance comme étant un enjeu uniquement d'hébergement d'urgence, alors qu'ils doivent prendre davantage position au niveau du logement également, puis au niveau de la cohabitation sociale.
Ça a été un échec, hein, l'histoire de Puy. Vraiment, il y a vraiment eu des... Ça s'est mal passé, hein, à moins que j'ai vu autre chose, mais ce qui a été dit et ce que j'ai vu, ça s'est pas bien passé, Madame Fortier, là-bas.
Ça s'est bien passé dans la mesure où le besoin immédiat était de loger rapidement des gens qui étaient à la rue. Donc, l'effort a été là. Maintenant, de créer des méga-centres de 400 places de nuit uniquement, ça a eu son lot de conséquences, que ce soit pour les commerçants, les citoyens qui étaient autour, mais aussi les équipes qui travaillaient là-bas. Donc, on a demandé à des équipes d'intervenants de faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont réussi, mais ça a été très, très difficile de mener à terme ce projet-là. Et ça a abouti à un offre conjointe, d'ailleurs, avec le partenaire qui est la mission Bonacquet, qui était là-bas. Donc, à la mission, on s'est assis avec eux pour dire, écoutez, on va travailler ensemble, on va nous s'occuper des services de jour et les offrir à l'hôpital Hôtel-Dieu, donc, pour pouvoir accueillir par contre, un maximum de 150 personnes, peut-être augmenter un petit peu ici et là le nombre de places, mais ne plus jamais revenir à des grands centres comme 400 personnes, parce qu'il n'y a rien de digne, ni pour les usagers, ni pour les équipes qui y travaillent. Il n'y a pas beaucoup d'avantages autres que, écoute, on est dans l'urgence, on a fait ce qu'on a pu.
Alors, en terminant, mais je veux que vous en parliez vraiment, on parle de la quatrième vague COVID-19. Est-ce que vous avez espoir que ça se maintienne au niveau du manque où vous croyez que ça va empirer pour les prochains mois, parce que c'est pas évident. Il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui ont encore faim, qui ont pas de toit. Quelles sont vos prédictions? C'est difficile là, de voir, mais ce que vous ressentez, ce que vous vivez en ce moment?
C'est une excellente question. J'aurais tendance à dire que bon, la pandémie, c'est sûr que la situation là, au niveau des éclosions, tout ça est suivie de près. À la mission Bury, on coordonne, on met en place aussi une zone d'isolement pour les personnes en situation d'itinérance qui sont atteintes de la COVID, qui ne sont pas nécessairement très symptomatiques, mais qui doivent être isolées, là, qu'on ne peut pas accueillir dans nos services réguliers à Montréal. Donc, toutes les ressources peuvent nous référer des gens qui sont atteints de la COVID. Donc, on est en train de regarder, là, s'assurer de stabiliser ces équipes-là, mais aussi de planifier là, le retour un peu des gens qui vivent plus à l'extérieur durant l'été. Donc, le froid va ramener, si on veut, des utilisateurs de nos services. Donc, on est en train de s'assurer de faire la promotion le plus possible de la vaccination, des dépistages, tout ça. Mais tout ça est un peu hypothétique. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on milite là, assez tôt cette année, là, contrairement à d'autres années, là, pour l'ajout de place. On est quand même très fébrile. Mais je ne serais pas capable de prédire exactement en tant que tel, mais il y a certainement des choix à faire là, pour que ça ne soit pas un hiver qui soit trop dramatique en tant que tel.
Alors, si on vous écoute, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver des places, mais je voudrais parler parce que j'avais vu à un moment donné, il y avait des manques pour les femmes, ou qu'est-ce que vous avez besoin, autre chose. C'est le temps de le dire. Des fois, il y a des couvertures, des manteaux en ce moment, vous avez besoin. Je sais que les places, j'avais une baguette magique, et on le ferait tout de suite, mais les gens qui écoutent et qui ont envie d'aider la mission Albury, vous avez besoin de quoi en ce moment?
C'est une bonne question. C'est sûr que les grands froids font qu'on a toujours besoin de matériel comme des vêtements, chaud, des sous-vêtements, c'est vraiment quelque chose. On reçoit des dons là, de vêtements usagés, mais des sous-vêtements, c'est très difficile. On s'entend dans notre tenue des usagés, donc des bas, des caleçons pour hommes et pour femmes. C'est toujours des éléments qui nous manquent. Mm-hmm. Sinon, des items liés à l'hygiène, donc brosse à dents, pâte à dents, savon, shampoing et compagnie, c'est quelque chose qu'on manque aussi. Vous pouvez également faire là, ceux qui ont un peu de moyens de faire des dons à la mission Aubrey. On travaille très, très fort à développer des nouveaux services. Et donc, c'est sûr que la partie, si on veut, qu'on sollicite les citoyens, c'est beaucoup sur, au niveau des dons en argent également là, pour pouvoir payer des salaires, entre autres.
D'accord. Alors, donc, un grand merci, Émilie Fortier. Elle est directrice des services du campus Saint-Laurent de la mission Aubrey. Merci.
Merci à vous.